Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va nous parler des fêtes civiques instaurées pendant la Révolution française. Quelle musique avez-vous choisie pour célébrer ces fêtes?
Comme nous allons le voir, les fêtes civiques ont été très nombreuses à partir de 1795, après la mort de Robespierre, jusqu'en 1799. On les fréquentait beaucoup, il y avait de la musique et des chœurs qui chantaient des hymnes patriotiques. Le compositeur Gossec, François-Joseph Gossec, était déjà très connu quand il fut nommé chef de la musique de la garde nationale. Il sera d'ailleurs en 1795 un des fondateurs du Conservatoire national de musique. Donc, on le chargea d'écrire des chants révolutionnaires et on connaît de lui le chant du 14 juillet, l'hymne à l'être suprême, l'hymne à la liberté, pour ne citer que les principaux. Je ne possède pas d'enregistrement de Gossec. Mais j'ai appris à l'école primaire son hymne à la liberté. Je le chanterai donc, à titre documentaire, pour qu'on en ait une idée. On voudra bien imaginer, au lieu de ma voix maigrichonne, des voix puissantes et bien timbrées, un chœur important et sonore. C'est un beau chant qui devait galvaniser les foules. On y voit la liberté guidant la France vers le triomphe de la justice et de la paix. Nous ne devons pas en sourire. Les hommes d'alors y croyaient. Et puis, et surtout, nous retrouverons Beethoven avec sa troisième symphonie, qu'on appelle aussi symphonie héroïque ou Eroica. Cette troisième symphonie a une histoire. Beethoven, enthousiasmé par les hommes de la Révolution française, la dédie d'abord au général Bonaparte. Puis, lorsque Bonaparte devient Napoléon Ier, Beethoven, déçu et malheureux, s'écrie avec amertume: ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Il va fouler aux pieds les droits humains. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Et il déchire la dédicace. C'est pourquoi nous écouterons des extraits de cette symphonie, qu'à travers Bonaparte, Beethoven avait voulu dédier aux soldats de la République.
Monsieur Julien, dans certaines périodes difficiles, le pouvoir doit maintenir un certain état d'esprit tout en faisant accepter des mesures impopulaires. Pour cela, il a recours à des artifices. Et c'était le cas pendant une certaine période de la Révolution française.
Oui, ces artifices, ce sont les fêtes civiques, l'un des traits caractéristiques de la vie publique pendant la période révolutionnaire, mais surtout après la chute de Robespierre, c'est-à-dire sous la Convention finissante et le Directoire. On multiplie les cérémonies officielles, comme on l'a dit précédemment, de 1795 à 1799. Ce sont des commémorations de grandes journées révolutionnaires, ou prétendues telles. C'est la célébration des victoires militaires, ou l'exaltation des vertus familiales et du travail, tout simplement. On appelait donc ces cérémonies les fêtes civiques. Leur calendrier, les détails de leur déroulement étaient fixés par le pouvoir central et les officiers municipaux devaient rendre compte de leur exécution au niveau local par un procès-verbal rédigé cette séance tenante. C'était là le moyen employé, vous le comprenez, par les dirigeants, de tenir en haleine les citoyens, d'entretenir leur confiance et leur fidélité au nouveau régime républicain, confiance et fidélité fortement ébranlées par le désarroi qu'a causé chez les véritables républicains la chute et l'assassinat de Robespierre, et à sa suite, la réaction thermidorienne, au cours de laquelle les contre-révolutionnaires, émigrés, prêtres réfractaires réapparus, relèvent la tête et se montrent agressifs. La diversité des comptes rendus de ces fêtes civiques, la brièveté de certains de ces comptes rendus, s'opposant à la longueur démesurée de certains autres, me semble prouver que ces fêtes civiques étaient ici, du moins à Saint-Antonin, inégalement suivies. La première de ces fêtes civiques se célébrait normalement le premier vendémiaire, premier jour de l'année républicaine, vous vous en souvenez, où l'on célébrait l'anniversaire de la fondation de la République, et ce jour-là donnait lieu à des réjouissances, à des danses, et même à un concours de course à pied. Plus tard, on y ajoutera même du tir à la cible. Ça, ce sera à l'époque commençante de la gloire de Bonaparte. C'était un peu un 14 juillet avant la lettre, le 14 juillet que nous connaissons aujourd'hui. Et cette fête du premier vendémiaire était suivie apparemment par une assistance nombreuse et jeune.
Au ciel radieux, tu t'élances, gloire à toi, sainte liberté. Étends tes deux ailes immenses sur la France et l'humanité. Pour toi combattirent nos pères, là d'obéir comme un troupeau, et tu guidas leur fier drapeau au son des trompettes guerrières. Sombre et farouche tu frappais, mais tu
cette fête du premier vendémiaire de la République, donc, me semble avoir été bien suivie par la population. Par contre, la fête dite de la juste punition du dernier roi des Français qui se célébrait le premier pluviose, correspondant au 21 janvier, date de l'exécution de Louis XVI, celle aussi de l'écrasement de la tyrannie, qui se célébrait le 9 Thermidor, correspondant à, justement, l'exécution de Robespierre, ou plutôt à la chute de Robespierre, celle de l'écrasement de la royauté, commémorative du 10 août 1792, celle de la Constitution, qui se célébrait en Fructidor, la Constitution de l'an 3, ne donne lieu, ici à Saint-Antonin, qu'à un compte rendu laconique de quelques lignes qui dit assez l'absence de participation populaire. Un peu comme nos cérémonies du monument aux morts actuel le 11 novembre, le 8 mai. Mais il y avait encore la fête des époux en germinal, choisissez bien le mois, des jeunes gens en floréal, des vieillards. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on célèbre le troisième âge, vous voyez bien. Et bien sûr, la grande fête de l'agriculture en Messidor, qui me paraît avoir ouvert le cycle de ces comices agricoles qui autrefois ont connu une si grande faveur dans nos campagnes. Toutes ces fêtes se déroulaient suivant un cérémonial à peu près identique, soit sur l'esplanade du Grand Orme, qui est la place actuelle des Tilleuls, où était dressé pour l'occasion l'autel de la patrie, sur lequel trônait une statue de la liberté, soit sur l'esplanade de la Condamine, où se tenait en particulier la fête de l'agriculture, c'est le Pradel actuel, et soit pour certaines grandes fêtes, comme celle de la chute et de l'écrasement de Robespierre, de la royauté, celle-là se tenait au Boulingrin, qui était une sorte de grand rond-point, dont je parlerai dans la prochaine émission, au milieu du Tour du Pré commun, pardon. Le procès-verbal de cette fête de l'agriculture dont je parlais et qui se célébrait à la Condamine, célébré pour la première fois en l'an 4, c'est-à-dire le premier Messidor en 4, nous apprend que ce jour-là ont été couronnés pour les succès de leurs travaux deux cultivateurs, Pierre Marcoux de la commune de Carandier, et Jean-Pierre Marty, dit Taillebart de Reynal-Haut, dans notre commune. Attention, ces fêtes civiques ne concernaient pas que la commune ou la municipalité de Saint-Antonin. Elles intéressaient tout le canton de Saint-Antonin, dont je rappelle qu'il comprenait les municipalités de Fénérol, de Carandier, de Selgues, de Saint-Igne et de Ginals. Donc tous ces gens-là étaient convoqués ici. Et c'est pourquoi, en l'an 4, on couronne deux cultivateurs particulièrement méritants, Pierre Marcoux de Carandier et Jean-Pierre Marty Taillebart de Reynald-Haut. Ces deux cultivateurs valeureux ont eu l'honneur de diriger au cours du cortège venu de la mairie ce nouvel instrument aratoire qu'est la charrue. La charrue, dit le procès-verbal, cet instrument intéressant qui force la terre à devenir libérale. La charrue est là, traînée par quatre bœufs, excusez du peu. Ainsi, grâce à ce procès-verbal, nous connaissons la date d'introduction, ou du moins approximative, de la charrue dans notre région, charrue qui va remplacer l'arrière séculaire dans toutes les grandes fermes. On nous dit aussi qu'à la fin de la cérémonie, le président, c'est-à-dire le maire en quelque sorte, mais à ce moment-là, il ne s'appelait pas maire, il s'appelait président. Le président, aidé des deux laboureurs distingués, fait une invocation solennelle à la terre en dirigeant dans son sein le soc de la charrue. Ce geste symbolique, nous dit-on, soulève l'enthousiasme et l'allégresse générale des assistants. On voit d'ici la scène.
Vous pouvez nous décrire cette première charrue présentée à Saint-Antonin ?
Oui, bien cette charrue, c'est ce que vous appelez tous, là, amis paysans, la mousson. Cette charrue qui est l'arrière perfectionnée en quelque sorte, dans laquelle toute la partie travaillante, toute la partie ouvrière est en fer, et non plus partie en bois avec un soc en fer. C'est un instrument capable, comme le dit le procès-verbal, de forcer la terre à devenir libérale.
L'évolution des hommes et de leur méthode de travail est toujours très surprenante. Il a fallu des dizaines de siècles pour passer de l'arrière à la charrue,
oui.
Alors qu'il faudra moins de 150 ans pour passer de la charrue tirée par les bœufs au tracteur traînant plusieurs socs.
C'est exact, oui.
Quels sont les autres grands progrès matériels apportés par la Révolution française ?
Les grands progrès matériels au niveau de notre commune apportés par la Révolution française, je ne pourrais pas en citer beaucoup d'autres. Cependant, n'oublions pas qu'il y a de spectaculaires progrès accomplis à cette époque dans le domaine, si l'on veut, de la métallurgie. Nous savons que déjà s'utilisent les machines à vapeur dans le domaine des mines. À cette époque-là, sont exploitées activement les mines de charbon d'Aubin, Aubin-le-Gat, et non pas pour chauffer les foyers domestiques, mais plutôt pour apporter du charbon pour la métallurgie précisément. C'est à cette époque-là, sous la Révolution aussi, que commence à naître la conquête de l'espace par les fameux aérostats et les montgolfières qui ont été inventés juste avant la Révolution, et aussi ce moyen de communication rapide, ultra rapide, pas aussi rapide que la radio, bien sûr, enfin, qui était déjà un progrès énorme à l'époque et qui a rendu service dans les campagnes militaires, je veux dire, le télégraphe Chape, dont une ligne passait dans notre département du Tarn-et-Garonne, mais pas chez nous, malheureusement. Elle passait cette ligne entre Grisolles et Valence d'Agen. Mais quand je dis ligne, entendons-nous bien, hein, une ligne de télégraphe Chape, c'était une succession de tours espacées de 10 à 20 kilomètres les unes des autres, peut-être même pas tant, et au sommet de ces tours se trouvait un système de bras articulés en bois qui, par une composition d'alphabet tout à fait ingénieuse, permettait de transmettre des messages. Voilà ce que l'on peut dire aux inventions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les inventions fondamentales viendront peut-être plus tard. C'est que là, le départ est donné, quoi.
Oui, justement, parce que la Révolution française a déclenché une évolution des esprits.
Oui.
Et est-ce qu'on peut penser qu'elle est à l'origine du grand bouleversement technologique des 19e et 20e siècles ?
Incontestablement, en France, oui. Et je ne pense pas que ce soit le cas pour d'autres pays comme l'Angleterre, qui avait déjà entrepris la révolution industrielle avant nous. Mais si l'on considère le système administratif et politique tel qu'il était avant la Révolution, c'est-à-dire figé dans des structures séculaires qui ne bougeaient pas, la Révolution arrivant avec la suppression des corporations a permis et a favorisé l'éclosion de la liberté d'entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'entreprise et qui semble être la panacée du monde capitaliste. Il est incontestable que la suppression des corporations en particulier, a favorisé l'esprit d'entreprise et a permis à des gens de découvrir des procédés nouveaux et a engendré la révolution industrielle du 19e siècle. Ça, c'est incontestable. Sans la révolution bourgeoise, je le dis bien, de 1789, la France n'aurait pas connu cette espèce d'épanouissement industriel du 19e et qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais je crois que pour en revenir aux fêtes civiques, et pour mieux vous faire apprécier le caractère pompeux, je devrais dire pompier, de ces cérémonies, et que nous trouverions sans doute ridicule aujourd'hui, nous autres esprits forts et blasés, pour vous faire goûter le style lyrique surtout et emphatique de notre secrétaire de mairie de l'époque, rédacteur des procès-verbaux, permettez-moi de lire le procès-verbal de la fête de la reconnaissance et des victoires célébrée le 10 prairial an 4, c'est-à-dire le 1er juin 1796, à Saint-Antonin. Peut-être que la lecture paraîtra fastidieuse à certains auditeurs, mais nous la couperons de quelques extraits musicaux de Beethoven. Fête de la reconnaissance et des victoires du dit prairial 4, procès verbal de la célébration. Alors nous commençons par une introduction. Et je lis. Le soldat français, travaillant avec une héroïque opiniâtreté à l'affermissement de la liberté qu'il a conquise, marchant de succès en succès, s'acquiert des droits imprescriptibles à la reconnaissance de tous les citoyens. Le moment arrive de prouver que tant de travaux, tant d'actions glorieuses sont justement appréciées. Le 10 prairial est fixé pour cet objet. Les victoires de nos guerriers doivent être célébrées ce jour dans toute la République en signe de gratitude. Les habitants de Saint-Antonin, toujours animé de ces sentiments qui distinguent honorablement les amants de la liberté, saisissent avec enthousiasme cette occasion de montrer combien les nombreux avantages de l'armée française les intéressent, combien le triomphe de la République réjouit leur cœur. Déjà, différentes proclamations des magistrats avaient annoncé l'approche de cette journée intéressante, fixée pour la célébration de la fête de la reconnaissance et des victoires. Elle arrive. La veille, une musique guerrière, des chants civiques préparent tous les citoyens de Saint-Antonin à la joie pour le lendemain. Il se lève cet astre qui doit éclairer les élans de la reconnaissance commune. Il paraît lui-même s'intéresser à la fête célébrée. Par ses ardeurs déversées avec ménagement, il se plaît à rendre la réunion des citoyens plus agréable. Dans la matinée, le bruit du canon se fait entendre. Alors, chacun se prépare. Le père de famille explique à ses enfants quel est le motif de la fête. Leur fait envisager avec jalousie les hommages prodigués aux défenseurs de la patrie dans cette auguste journée et les excite à s'en rendre même dignes dans la suite. L'artiste élève avec ravissement des autels à la liberté. Le citoyen recherche avec empressement le laurier dont on doit les orner. Les parents des défenseurs de la patrie préparent leur âme aux émotions délicieuses qu'ils doivent éprouver. Le magistrat, enfin, trace les couronnes dont il doit, tresse les couronnes dont il doit orner la tête des militaires blessés en combattant pour la République. Le moment de la réunion est là. 2 heures sonnent. Le bruit du canon se prolonge en écho dans les airs. La garde nationale est sous les drapeaux. Elle se rend sur l'esplanade du Grand Orme. S'y forme un bataillon carré auprès de l'hôtel de la patrie qui y est élevé. 3 heures se font entendre. Une partie de la force armée précédée de la musique se détache et va prendre toutes les autorités constituées du canton réunis à la maison commune. Le cortège s'ébranle. Des adolescents, portant les couronnes préparées pour Aliès, Loupiac, Cadène, Jean Besse et Villeneuve-Reille, tous blessés en combattant pour la liberté, ouvrent la marche. Les 5 citoyens à couronner occupent au centre des autorités constituées une place distinguée. On arrive en bon ordre, portant le laurier à la main, au lieu où le peuple réuni attend impatiemment le moment de la reconnaissance. L'hôtel de la patrie reçoit tous les fonctionnaires publics. La vue des 5 citoyens blessés, placés auprès de la statue de la liberté qui leur sourit, fait éprouver un enthousiasme général qui se manifeste par les cris 1000 fois répétés de « Vive la République !» Un roulement des tambours fixe l'attention de tous sur le président de l'administration municipale de la commune qui, dans un discours dicté par l'amour bien prononcé de la République, retrace les causes sublimes qui ont provoqué la fête dont on s'occupe, applaudit aux efforts des armées françaises, jette des fleurs sur la tombe des martyrs de la liberté, félicite ceux qui ont des parents à la défense de la patrie en proclamant leur nom, rappelle enfin à tous les citoyens la manière dont ils doivent utiliser les victoires qu'ils célèbrent. Ce discours fini, les cris de « Vive la République !» les chants civiques, le son des instruments, le bruit des tambours vibrent agréablement les airs, tout annonce l'allégresse générale. We'll be right back. commissaire du directoire exécutif près l'administration de la commune se fait entendre à son tour. Il paie aussi, dans un discours brûlant, son tribut à la reconnaissance. Il vante les exploits de nos guerriers, suit Bonaparte dans toutes ses victoires et fait partager à nos défenseurs les plus distingués les éloges qu'il lui prodigue. Ce discours est écouté avec intérêt, il provoque encore un nouvel épanchement d'enthousiasme. Arrive le moment de couronner les saints citoyens blessés dans le champ de l'honneur. Une décharge d'artillerie l'annonce. Le président de l'administration de la commune le devance par un discours dans lequel il retrace rapidement les actions glorieuses des braves qu'il présente à l'admiration de nos concitoyens. Il fait voir Aliès, aussi intrépide, aussi intelligent guerrier dans le Piémont qu'à Calvi, où avec le seul bataillon de l'Aveyron, il repousse les insurgés au nombre de 6 000. Il suit Loupiac dans les premières opérations de l'armée d'Italie, l'y fait figurer honorablement et le montre avec intérêt à Sospello, tombant au poste de l'honneur sous les coups de l'ennemi. Il fait applaudir au courage de Cadène. Quant à la défense de la redoute Merlin, il reçoit le coup qui le prive de l'usage d'une de ses mains. Il suit Jean Baisse au nord, où il se signale tant sous Trèves que sous Mayence, le montre encore couvert de blessures, se mesurant avec avantage contre les brigands de la Vendée. Il retrace enfin les services rendus à la patrie par Villeneuve-Reille, qui, quoiqu'ayant perdu un œil en combattant pour elle, se félicite de ce qu'il peut encore figurer dans nos armées et rend celle d'Italie témoin de son courage. Le couronnement termine le discours du président. Il s'effectue au milieu de l'ivresse et de la joie. Tout le monde s'intéresse à cet acte de reconnaissance. Les chœurs de la musique ajoutent à son éclat, et il est suivi des embrassements que prodiguent tous les membres des autorités constituées aux 5 citoyens couronnés. Ici, le commandant de la garde nationale prend la parole. Il électrise de nouveau par un discours où l'on distingue les cris de la reconnaissance confondus avec ceux du devoir. Il parle avec intérêt des victoires de la République et il démontre que c'est à la garde nationale à les utiliser par un dévouement égal à celui de nos défenseurs. Les applaudissements prodigués au commandant prouvent que le zèle qu'il anime est partagé par toute la troupe qu'il commande. Ces différentes expressions de sentiments amènent enfin le moment du départ. Les magistrats l'annoncent. Il s'effectue sans confusion. Tout le cortège se rend sur la place de la République où il salue l'arbre de la liberté. De là, il se rend à la maison commune où tout est préparé pour les danses et farandoles qui terminent cette intéressante journée. Les membres de l'administration municipale de la commune de Saint-Antonin de l'Aveyron signés, Bromé, président, c'était un notaire, Scudier, marchand, Saremejeanne, c'était un chandelier, Cantarelle, c'était un apothicaire, et enfin, le commissaire du directoire exécutif Duvert, ancien chouanoine. Voilà, dans un style bien particulier, ce compte rendu d'une fête civique qu'on dirait être le bon devoir d'un bon élève de certificat d'études d'autrefois. peu à peu, on s'en doute, va s'émousser l'enthousiasme du peuple. Et les fêtes civiques vont disparaître. Le gouvernement du directoire trahira les espoirs révolutionnaires. Il va s'enfoncer dans la corruption et préparer la voie à Bonaparte, dont le prestige est grand, on l'a vu, parmi les soldats. Aliès, dont on a parlé dans le texte que j'ai lu, a prénommé son fils, né en l'an 6, Victoire Bonaparte.
Ce texte relatant la fête de la reconnaissance et des victoires n'est peut-être pas aussi innocent qu'un devoir de certificat d'études. Son étude très approfondie permettrait certainement d'avoir une idée précise des sentiments du peuple et des élus locaux pendant la Révolution française.
Oui.
Comment était cet hôtel de la liberté dont on nous parle dans le texte ?
Oui, cet hôtel de la liberté, ce qui est sûr, je ne sais pas comment il était, mais enfin ce qui est sûr, c'est que pour le construire, on utilisait les services d'un charpentier à chaque fois, donc il était démontable. Et ce charpentier ne devait pas avoir beaucoup de travail parce que on ne lui payait que deux tiers de journée. Il n'avait même pas comme salaire une journée complète. Il ne mettait pas une journée pour le construire. En admettant même qu'il ait avec lui un garçon pour l'aider, peut-être un apprenti, ça ne devait pas être un monument sensationnel. Cette espèce d'hôtel de la patrie me fait penser un peu à ces estrades que nous avions autrefois, que l'on déplaçait à très rapidement de la place des Tilleuls à la place des Moines, faites de briques et de brocs avec quelques madriers posés sur des bidons ou posés sur des tréteaux sommaires. Ce qui me surprend le plus dans le texte que nous avons entendu, c'est qu'il parle à un moment de la statue de la liberté qui sourit aux cinq citoyens blessés. Ça, je crois qu'il se fiche du monde, tout simplement, parce que je n'ai jamais trouvé dans les comptes une dépense relatant l'achat d'une statue de la liberté. D'ici que ce soit quelque sainte vierge prise parmi les statues de l'Église, ou à moins que ce soit une jeune fille de Saint-Antonin, puisque au début, quand on a célébré le culte de la raison, la déesse raison, c'était une jeune fille. Mais là-dessus, il n'y a aucun détail qui permette de se faire une idée.
Voilà, si c'était une jeune fille, elle pourrait donc sourire au...
La jeune fille aurait pu sourire, une statue de plâtre, non.
On voit le peuple exprimer sa gratitude aux armées de la République. Ces armées combattent glorieusement en Europe. Comment se fait-il qu'un pays ayant autant de problèmes économiques qu'en avait la France pendant la Révolution puisse avoir des armées aussi puissantes ?
Mais voilà, c'est un paradoxe qui s'est produit, ce paradoxe, pendant la Révolution française, mais ce n'est pas un cas unique. Si l'on regarde bien dans toute l'histoire des pays, de l'humanité même, on s'aperçoit que les pays les plus exsangues, qui vivent le plus difficilement, même dans ces pays-là, la guerre peut surgir. Qu'on pense au Vietnam, qu'on pense à l'Allemagne de Hitler, qu'on pense à l'Iran actuellement, les situations économiques n'empêchent pas du tout la guerre. Au contraire, semble-t-il, une situation économique difficile engendre presque automatiquement la guerre. Et chose étonnante, c'est que cette guerre qui... ruine le pays, ça c'est objectif de dire ça, ruine le pays, eh bien, les pays s'en relèvent, c'est bien le plus étrange ça. Et pendant cette période terrible, qui a duré de 1792, déclaration de guerre à l'Autriche, jusqu'en 1815, après la chute définitive de Napoléon, la France a été en guerre pendant 23 ans, pas tous les ans, mais enfin une période de 23 ans de guerre, en dépit de ça, la France est encore debout. C'est incompréhensible, c'est un des paradoxes de la politique et de l'économie de nos pays. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien dire, c'est que quand les Saint-Antoninois célèbrent les blessés, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la continuation de la guerre, et nous verrons très vite dans les textes apparaître des mesures prises contre les réfractaires et les déserteurs, c'est-à-dire contre les jeunes gens Saint-Antoninois qui se refusent à aller combattre dans les armées de la République et surtout dans les armées du fameux Napoléon. Mais restons-en à l'époque où nous sommes, Cette époque-là, de l'an 6, où Aliès prénomme son fils Victoire Bonaparte, on voit déjà s'agiter ici, à Saint-Antonin, les contre-révolutionnaires et se produire des manifestations populaires qui ébranlent l'autorité municipale, notamment manifestations populaires motivées par des querelles religieuses qui surgissent entre les fidèles des prêtres assermentés et les fidèles des prêtres réfractaires, qui se disent, eux, fidèles d'un culte catholique dans sa pureté primitive. Cette période de troubles qui sévira à Saint-Antonin en 1796-1797 trouvera sa conclusion logique dans l'adhésion de notre commune au coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire au mois de novembre 1799. Alors, la révolution est passée. Qu'a-t-elle laissé de son passage dans notre ville ? Ce sera l'objet de notre prochaine et dernière émission.